Un peu de sagesse dans ce monde de brutes. Bonjour Ilios.
Bonjour Sophie.
Bon, on va s'intéresser ce dimanche à cette capacité plus ou moins développée chez les individus, celle de se mettre à la place de l'autre. C'est ce qu'on appelle, grosso modo, l'empathie,
oui.
C'est ça ?
Vous arrive-t-il d'éprouver une grande joie en regardant un film dans lequel deux amoureux ou amoureuses se retrouvent enfin après une longue séparation ? Ou de ressentir une réelle tristesse lorsqu'une amie vous raconte un événement difficile pour elle ? Et vous avez alors envie de l'aider. Et l'empathie dont nous parlons aujourd'hui est une composante nécessaire d'une coexistence harmonieuse, car elle favorise des comportements prosociaux comme aller vers les autres, essayer de communiquer ou d'échanger avec eux, et surtout proposer son aide.
Alors, il y a différents types d'empathie d'abord, peut-être ?
Oui, complètement. Alors déjà, si on regarde les racines du mot empathie, l'idée c'est de souffrir ou éprouver dedans. Et donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir éprouver ce que quelqu'un d'autre éprouve à l'intérieur de nous, de modéliser ses sentiments. Mmh. Et en général, on parle de deux types d'empathie. Une empathie qu'on va appeler affective, qui est une forme de résonance. Je me laisse toucher, résonner par les émotions de l'autre. Et puis, une forme d'empathie qu'on va appeler davantage cognitive, qui m'aide à comprendre les intentions, ce qui est en fait les pensées, ce qu'il y a dans la tête d'autrui.
Alors une capacité qui est différente selon les individus, forcément il y en a qui n'éprouvent pas d'empathie, hein. On le voit souvent avec ces meurtriers, on se dit mais il n'y a pas d'empathie, il n'y a aucun ressenti. Mais il y a aussi des pièges de l'empathie, ça peut nous enserrer quelque part, ce sentiment, cette émotion ressentie pour l'autre.
Et c'est vrai que nous les êtres humains on est une espèce sociale, donc l'empathie est essentielle pour vivre en groupe, et en même temps on voit quelques-uns de ces pièges. Alors Serge Tisseron pointait spécialement le piège de l'empathie qui est seulement affective. Et donc, lorsqu'on est seulement dans cette résonance émotionnelle, un des risques, c'est de se faire manipuler facilement dans un monde qui va tout à l'émotion. Mais un autre risque, c'est aussi d'être brûlé par une composante qui est la détresse empathique. Je suis tellement touché par la souffrance de l'autre que pour finir, je ne sais même plus quoi faire pour l'aider. On peut penser à ce qu'on appelle le burn-out du soignant, qui est ces soignants qui sont tellement touchés par la détresse des personnes qu'ils soignent et par l'impuissance parfois à les aider, se retrouvent en très grande difficulté émotionnelle et pour finir incapables de faire quoi que ce soit. On peut penser à autre chose qui est l'empathie uniquement cognitive, c'est-à-dire je comprends l'autre mais je ne raisonne pas affectivement et donc je ne suis pas touché, je ne vais pas faire quelque chose pour l'aider. Alors il y a évidemment peut-être une des choses les plus graves qui est que dans l'empathie, en général notre empathie est sélective, nous allons davantage ressentir d'empathie pour les gens qui sont de notre groupe d'appartenance, ceux auxquels on s'identifie, ceux desquels on se sent proche. Et donc notre empathie ne va pas être pour tous les êtres humains qui souffrent. Et c'est pour ça que Paul Bloom, qui est un psychologue de Yale, a publié un ouvrage très provocateur qui s'appelle « Contre l'empathie » et qui dit que l'empathie est mauvaise pour notre comportement moral, qu'elle est biaisée, qu'elle est aveugle à la misère du monde. Et il nous dit il faudrait la remplacer par la compassion. Et ce qu'il appelle, lui, empathie compassionnelle, c'est l'idée que c'est pas simplement se laisser toucher par la souffrance du monde, mais ça suppose une attitude bienveillante, une action pour aller les aider. C'est ce que Mathieu Ricard appelle lui aussi la compassion. Et donc, il nous dit, c'est ce qu'il faut, une compassion rationnelle qui se dirige pour tous les êtres humains et toutes les formes de vie est plus importante que l'empathie.
L'empathie, est-ce qu'elle est le propre de l'homme dans sa nature profonde ou elle s'acquiert au fil des années ?
Alors on a bien voulu croire que c'est le propre de l'homme et on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai du tout, qu'on la trouve chez énormément d'espèces animales. On la trouve chez l'éléphant qui va réconforter un congénère apeuré. On va le trouver bien sûr chez les dauphins qui vont à plusieurs aider un dauphin qui est en difficulté à aller à la surface de l'eau pour respirer. On la trouve chez les bonobos, chez les chimpanzés qui vont parfois adopter d'autres animaux et les aider. Donc des comportements altruistes extrêmement sophistiqués. Mmh. Et l'homo sapiens évidemment ne fait pas exception, à part que lui il est capable des pires des choses, contrairement à beaucoup d'autres espèces animales.
Alors, on parlait il y a un instant, Ilios, des pièges de l'empathie. Hein, vous l'avez bien expliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ces
alors, énormément de bonnes nouvelles ici. Une étude scientifique publiée dans PNAS a montré que ce biais de l'empathie, qui fait qu'on va davantage ou seulement aider les gens proches de nous, on peut le corriger très rapidement. Et comment ? En étant mis en lien de manière positive avec des personnes différentes de nous. Et donc, le contact de la diversité va faire qu'au niveau purement cérébral, tout à coup, ce qui va faire que notre capacité à ressentir de la douleur est éteinte face à quelqu'un de différent, elle va se rallumer. Et donc, ça montre à nouveau à quel point nos enfants et nous-mêmes devrions être en contact avec la diversité, avec des gens différents.
Et du coup, ne plus avoir peur de l'autre, finalement.
Évidemment, c'est ça aussi. Mais c'est ça qui va faire, par la suite, qu'on ait envie de l'aider. Bien. Alors, d'autres nouvelles pour l'empathie. Bien sûr que les enfants apprennent par imitation, évidemment, parce qu'ils regardent de nous, mais une excellente nouvelle aussi, c'est qu'on peut apprendre l'empathie par une activité, somme toute, assez solitaire. C'est la lecture.
Ah oui.
On s'est rendu compte que la lecture de romans développe l'empathie chez nous, et que les femmes et les hommes qui lisaient davantage de romans avaient une plus grande capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et donc, à nouveau, voilà quelque chose de simple à faire. Et c'est vrai que se plonger dans un roman, c'est se plonger dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Alors, ce que j'aurais dit ici, c'est ami, toi qui nous écoutes aujourd'hui, mets-toi dans la peau de quelqu'un d'autre. Mets-toi quelques instants dans ses chaussures. Adopte son regard et qu'est-ce que tu feras ? Tu rendras son monde et le tien un peu plus empathique et donc un peu plus chaleureux.
Allez.